levier,
un levier
sur le DAB+.
Sur le DAB+.
She locked herself in that room with a full view of a full moon. And it's where she come to fly when she wanna disappear from what's outside. I try not to make it obvious. She doesn't know there's an audience. These walls are ribbed thin, so it ain't my fault that I'm listening. And I can make out every word, cause she sing loud like a trapped bird. She looks out at the stars when she writes songs on that guitar. And every song you write without me, just another sad song to me. And every song you write without me sound like who I'll never be. She picked up her instrument and I don't know where I went. I just close my eyes and float like I'm in there with her, trying to hold all the notes she hits motionless. My secret solo show she gives. Sometimes she'll search for a line and I wish I could give her one of mine. But it would all unravel if she found out I was in the shadow. So I suppress what I obsess. But your biggest fan wanna sing a duet. Because every song you write without me, just another sad song to me. And every song you write without me sound like who I'll never be. Familiar with the voice of the lonely, lost in the noise of the wind blowing. Go ahead, girl, tell your story, but the siren don't wail for holy. Play your heart by strings with the parts you sing. Can't wait to hear what tomorrow brings. And if you ever get to smile, I'll be right here trying to reconcile my desire to admire your sadness. You gon' rise from the fire and ashes. And if it's all the same to you, you oughta let me be the one to help change your tune. Cause every song you write without me, just another sad song to me. And every song you write without me sound like who I'll never be.
Connaître pour aimer.
Aimer pour protéger.
Dans la nature. Radio Bleu Div.
Les actus. Les sorties. Les interviews.
Radio Bleu Div. L'émission qui parle de ta nature.
Eh bien, bonjour et bienvenue dans cette cinquième émission de Radio Biodiv sur Principe Actif. On est tous heureux de vous accueillir. Salut
bonjour
l'équipe.
Bonjour Alex.
Ça
bonjour
va Philippe.
Bonjour.
Et on est encore quatre pour cette émission, donc c'est super cool. Et on a un petit invité surprise aujourd'hui qui est Jean-Pierre Dulondel, qui va nous parler de la protection des busards. Et voilà, cette cinquième émission, je vous propose
qu'on... Est-ce qu'il y a un thème?
Il n'y a pas vraiment de thème cette semaine. Non, après on va parler des pics.
Pique et collégramme.
Voilà, Instagram. Et sinon, j'ai laissé beaucoup de place à Camille cette émission. C'est elle qui va prendre pas mal de missions. Donc, on lui souhaite bon courage.
Merci beaucoup.
Le jeu.
Mais qu'est-ce que c'est?
Eh bien, aujourd'hui, comme d'habitude, nous vous proposons un son de la nature et vous devez le reconnaître. Vous avez la durée de l'émission pour trouver une solution et à la fin de l'émission, on vous donnera la solution. Voici le son. Alors, ça n'est pas le Puyo Veloz qu'on entend, c'est l'autre son. Voilà, vous avez l'émission pour trouver. Eh bien, maintenant,
C'est le moment du coin-coin.
C'est le coin-coin. Alors, c'est moi qui vais commencer avec une nouvelle. En fait, vous savez que on a une politique sur les nuisibles. Alors, la novlangue fait qu'on parle plus de nuisibles, on parle des ézodes. Mais en général, ces animaux qui sont les renards, les geais, les pies, les corbeaux, les corneilles, tout ça est considéré comme ézodes, c'est-à-dire espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans la nature.
Des dégâts.
Voilà.
Surtout pour les agriculteurs.
Les politiques de destruction de ces nuisibles s'avèrent complètement inefficaces. C'est une étude du muséum qui nous dit ça. Et puis, il y a un petit article de France Info qui résume cette étude. Mais en tout cas, alors non seulement c'est inefficace, mais en plus c'est très coûteux. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que comparer le coût de la destruction des ézodes et le coût que ça engendrerait s'il n'était pas détruit, c'est clairement, ça coûte beaucoup plus cher de les détruire que de les laisser dans la nature. Et en plus, c'est inefficace parce que quand on les détruit, bah ça ne va pas réduire la population. Il y a d'autres, par exemple, si on détruit un renard, d'autres renards qui vont venir à la place. Les corneilles qui sont détruites, bah c'est des jeunes corneilles en général et d'autres corneilles vont arriver pour manger. Et donc voilà, c'est complètement inutile. Donc faudrait, malheureusement, quand on pose la question à nos ministres, ils disent ah bah non, nous ce qu'on fait c'est qu'on les détruit puis on a pas l'intention de changer. Mais bon, voilà, il faudrait qu'ils se renseignent un petit peu des études scientifiques. Camille, tu nous dis quoi ?
Une très mauvaise nouvelle aussi. Alors moi, je vais vous parler du cadmium. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est un métal toxique qui est présent dans les engrais, donc qu'on retrouve dans l'environnement, aussi bien dans l'air, dans l'eau, le sol. Mais si ça fait autant polémique en ce moment, c'est pas par rapport à l'environnement, c'est bien évidemment par rapport à la santé, étant donné qu'on retrouve ce métal surtout dans notre alimentation dite de base, c'est-à-dire les pommes de terre, le pain, les gâteaux, les viennoiseries, les céréales, les pâtes, le riz, et même dans certains légumes. Donc la liste est malheureusement longue et donc dans une expertise rendue publique le 25 mars, c'est ça, l'Agence nationale de sécurité sanitaire s'alarme une fois plus sur la surexposition des Français, étant donné que selon cette étude, il y a 47,6% des adultes qui présentent déjà un niveau de cadmium dans leur organisme dépassant les valeurs toxicologiques de référence. Donc cette substance, elle est classée cancérigène, mutagène, toxique, elle joue sur plein de maladies, bref, que des mauvaises nouvelles. Évidemment, il faut absolument réussir à réduire ces taux qui sont affolants. L'instance préconise plusieurs leviers qui sont liés à l'environnement, donc évidemment réduire certains engrais, mais aussi la modification des pratiques de culture, comme l'agroforesterie, ou l'utilisation de cultures intermédiaires, comme le radis, qui est capable de capter le phosphore présent dans les sols. Donc, ce serait bien qu'on réussisse à résoudre un souci sanitaire avec de l'écologie. Donc c'est une affaire à suivre qui est actuellement en train de débattre dans l'hémicycle, manifestement.
Alors moi, je vais vous parler d'un marais. C'est un marais en Île-de-France. C'est un petit article d'un de nos journaux préférés qui s'appelle Reporter. Et ce marais en Île-de-France, c'est l'occasion de découvrir un endroit de nature qui est très favorisé. Il y a beaucoup d'oiseaux, il y a beaucoup d'amphibiens. Enfin, c'est un endroit assez génial. Mais surtout de rappeler que les zones humides en France sont vraiment très utiles. Elles jouent un rôle, y compris par rapport aux inondations. Et c'est l'occasion de se dire, voilà, protégeons notre nature et puis gardons surtout nos zones humides. Qu'est-ce qui se passe à Rugles, Camille ?
À Rugles, une très bonne nouvelle. On a le seul bassin de Haute-Normandie, enfin bassin, je dirais même piscine, qui ne possède ni chlore ni produits chimiques. Alors comment c'est possible ? Donc à Rugles, c'est dans l'Eure, il y a cette piscine qui s'appelle une baignoire biologique. Donc le fonctionnement est basé sur un principe de lagunage. Il s'agit d'un système naturel d'épuration et de filtration qui est effectué en permanence par des plantes aquatiques, comme les roseaux, l'amande poivrée, etc. Donc qui traite l'eau et aspire tous les micro-organismes néfastes Alors, pourquoi ce drôle de système ? Eh bien, les plantes remplacent, effectivement, comme je vous l'ai dit, le chlore et les autres produits chimiques que l'on retrouve dans les piscines, entre guillemets, plus traditionnelles. L'eau est évidemment naturelle puisqu'elle sort du château d'eau et il n'y a pas de produits chimiques, donc c'est super pour votre peau et l'environnement. Mais pour les petits sceptiques, sachez que l'Agence régionale de la santé contrôle l'eau de cette piscine toutes les semaines, contre une fois par mois pour les piscines conventionnelles. Donc c'est une piscine écologique et on en est sûr et c'est super.
Super.
Petite pause musicale.
C'était Inside Song. Vous avez entendu ce magnifique saxophone. C'était de Guillaume Perret.
Et moi, ce mois-ci, pour l'instant nature, et bah, avec Oscar, on a été en forêt. On a essayé d'aller écouter et voir le Pic Noir. Et spoiler, on l'a pas vu.
Je vois trois cloches.
Bienvenue dans Radio Pionnier. Je me trouve actuellement dans la nature.
Les oiseaux et les enregistrer leurs chants.
Ouais, bon, on va essayer de voir si on arrive à avoir le Pic Noir. Ce serait trop cool.
Et un pic épéchette aussi.
Ouais. Et là, c'est...
Papa.
Ouais.
Le pic entre le pic épéchette et le pic noir, c'est lequel le plus rare?
Ah, c'est une bonne question. Je dirais peut-être le pic épéchette. Parce que le pic épéchette, il est tellement petit qu'il ne peut pas creuser son, sa loge. Tu sais, c'est quoi les loges? C'est ces creuses.
Oui, quand ils creusent avec leur bec.
Ouais.
Et qui font.
Alors, ça, c'est le tambourinage, mais Piqué Pêchette, il n'est pas capable de creuser sa loge en du bois vivant. Il est obligé de trouver du bois mort, mais des arbres morts qui sont encore sur pied. Et ça, c'est très très rare. Donc, du coup, peut-être qu'il est un peu plus rare que le pic noir. En tout cas, il doit être plus discret. Et on le rencontre moins souvent. T'inquiète pas. Le tout, c'est qu'on arrive. Après, on va s'asseoir et il faudra attendre sans faire de bruit. Ouais, on va mettre le micro. Après, on va s'asseoir et on va attendre. Et il faut faire attention, tu vois l'arbre mort qui est là-bas, là, avec le grand tronc qui monte tout en haut, qui est tout mort.
Ouais.
Et bah, le pic noir, il vient tambouriner ici. Et là-bas, derrière nous, sur le petit arbre le mort qui est là-bas, là, et bah, c'est le pic et pêche qui vient là.
Nous sommes placés à côté d'un petit arbre mort, un petit bout d'arbre mort. Oh oui, il y a un trou.
Ouais, tiens, regarde.
Oh, tout en haut, il y a un énorme trou.
Regarde là-bas, je crois qu'il y a... Ah, écoute, il y a un piqué pêche. Tu l'entends? Ouais, là, c'est le piqué pêche. Tu le vois? Regarde avec tes jumelles. Il est quelle couleur?
Je crois que c'est un piqué pêchette.
Tu crois? Il est tout petit, le piqué pêchette. Hein. Il fait la taille d'une mésange.
Le piqué noir, il est tout noir. Je crois que c'est un piqué pêche normal. Tu vois?
Ouais, là, c'est un piqué pêche, tu vois. On voit bien les... Il a deux grosses taches blanches sur le dos. Et il a les fesses rouges, alors que le piqué pêchette...
Moi, je vois pas ses fesses.
Il va être tout petit et il va avoir que des traits blancs sur le dos. Il va pas avoir de taches blanches, il va avoir que des petits traits.
D'accord.
Et le mâle, il va avoir une petite tache rouge sur la tête, alors que la femelle, elle l'a pas.
Je crois qu'il est pas...
Oh. Oh. Chut, 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 chut. Pas de bruit. Où est-ce qu'il est? Alors ça, toi... Ça c'est le. Non, ça c'est le piqué pêche aussi, je pense. Bouge pas. Est-ce que tu sais pourquoi ils tambourinent les piqués?
Pour marquer son territoire.
Ouais. Ah. Alors, le tambourinage, vu que les piqués savent pas bien chanter, bah ils tambourinent. Ils cherchent une branche creuse qui résonne bien et ils tambourinent.
Papa, regarde.
Ouais.
Ouais,
bah ça c'est une ancienne loge aussi, tu vois.
C'est piqué pêche.
Ouais.
Oh bah y'a là, y'a. Là y'a deux autres trous. Là y'a encore un trou. Là y'a un trou de loge encore.
Ouais.
Attends, je vois. Trois trous de loge. Un pour manger. Non, là un. Et... Trois trous, c'est pour des loges.
Ouais.
Ici, c'était pour manger.
Et tu vois, dans cette forêt, il y a plein de hêtres. Et le pic noir, il aime bien les hêtres pour faire ses loges.
Par contre, on a de la chance d'habiter si près.
Mmh. Et regarde là, c'est rigolo. Sur l'arbre juste là, il y a un gros champignon qui a poussé juste au-dessous. Loge là, juste à côté, tu vois. Ça fait comme un petit toit. Le pic noir, il est super grand, il fait la taille d'une corneille.
Quand même.
Ouais. Et hier, quand je l'ai vu, il arrivait de par là, et hop, il est venu sur le tronc. un singe. Ça fait ouh, ouh, ouh. Ça, c'est un pigeon colombin. Et tu sais quoi? Il utilise les loges de Pique Noir pour faire son nid.
Aucun travail.
Ouais, c'est ça. Et si on n'avait pas de Pique Noir, eh ben, on n'aurait pas forcément le pigeon colombin dans cette forêt. C'est rigolo.
Ouais.
Là, on entend le pigeon ramier.
Le pigeon ramier, on en a beaucoup chez nous.
Ouais. Il dit, je suis un pigeon. Je suis un pigeon.
Sauf que ça, on sait déjà.
On entend la maison charbonnière. Fait le tour de leur crâne et ça leur permet en fait d'amortir les chocs de la boîte crânienne.
Je trouve plus.
Alors regarde à l'œil nu, on voit encore là-bas. T'as vu la boule à tête?
Vas-y, c'est bien, j'en vois.
On voit bien avec les jumelles.
Ouais. Avec la longue vue, ce sera encore mieux.
Ouais, mais c'est pas pratique. Ah, il est monté un peu plus haut.
Où ça?
Il est sur le même tronc, mais il est passé derrière, il est remonté un peu. Peut-être qu'il va essayer de te frapper ailleurs.
Tu le vois?
Ah, il est revenu.
On voit pas très bien, mais on voit.
Je le vois plus. Il va peut-être se remettre du bon côté.
Du côté où on observe, quoi.
Ouais, moi je vois sa tête.
T'as vu?
Il est encore là, je le vois. Ouais, il est un peu plus derrière, on le voit moins bien, mais il est encore là. Et il semblerait aussi que c'est les animaux, les piques, qui ont les paupières les plus musclées du monde animal. Ils tapent tellement fort sur le tronc que s'ils n'avaient pas des paupières hyper musclées, et ben les yeux ils sortiraient de leurs orbites. T'imagines?
Ouais.
J'espère qu'on va voir le pic noir.
Et
c'est le pic épêche encore.
Ah là, son champ est pas mal.
c'est aussi pour délimiter son territoire.
Pareil que pour le tambourinage du coup.
Voilà. Ouais, bon. Viens, viens, viens. Là, je te dis ta tête.
Il est où?
Je te dis non.
Mais oui.
Je suis pas sûr que ce soit un pique et pêche.
Ouais, pas tout ce que je sais que ça. Il a énervé.
Non, c'est un pique marre, trop bien.
C'est encore mieux.
Ouais.
Tu vois?
Ouais, je le vois.
Moi, je vois pas.
Regarde, hop, il vient de s'envoler, paf, il est parti par là-bas. Oh, super.
Donc là, dans cette forêt, c'est trop bien. On a le pique-pêche, le pique-pêchette,
le pique-noir,
le pique-noir, le pique-mar et le pivert. On a les 5 espèces qu'on peut voir en Normandie. Trop bien.
Et ben voilà, ça prouve que dans la nature, on peut pas toujours voir ce qu'on prévoit à l'avance. Là, on avait prévu le pique noir et le pique pêchette, mais on les a pas vus, on les a pas entendus, mais on a eu une super séance avec le pique pêche et le pigeon colombin. Donc voilà, mais on vous réserve une petite surprise, le petit son de la nature de la fin, on reparlera des piques. Et ben c'est le moment de l'espèce du mois avec Camille et Philippe.
Je suis la grenouille à grande bouche. Et toi, comment tu t'appelles ?
Alors, l'espèce du mois est un papillon.
Ah, super, enfin une petite bête.
C'est le papillon citron, un de nos messagers du printemps. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur son nom ?
Bien sûr. Eh ben, citron, à votre avis. C'est sa couleur, hein, il a la couleur du citron. Son nom latin, c'est Gonepteryx rhamni. Alors, c'est du latin, mais qui est inspiré du grec. Gonepteryx, gonia, c'est l'angle, et pteryx, c'est les ailes. Pourquoi ? Parce que ce papillon, il a des ailes avec des petits angles, des petites pointes. Voilà, ça décrit un petit peu son... Voilà. Et puis rhamni, ben, c'est tout simplement les ronces. En anglais, on l'appelle brimstone butterfly. Brimstone, c'est tout simplement le soufre. Eh bien, devinez pourquoi ? C'est un peu la même couleur que le citron, non ? Camille, est-ce que tu peux nous parler de sa famille ?
Oui, c'est un papillon de jour. On appelle ça les rhopalocères. Alors, ce mot compliqué, ça vient du grec ancien. Oui,
encore
du grec. Qui vient de rhopalon, c'est massue, et keras, qui peut signifier soit corne, soit antenne. Donc, ça fait clairement référence à sa morphologie, vu que tous les rhopalocères ont des antennes terminées en forme de massue. Le citron, d'ailleurs, est assez proche des pierides, vous savez, ces papillons blancs que nous voyons souvent dans nos jardins.
Tu peux nous dire à quoi il ressemble ?
Oui, alors comme tu l'as déjà dit...
À part la couleur.
Ben voilà, il est jaune et il a des ailes avec des petites pointes anguleuses. Il mesure en moyenne entre 40 et 60 mm d'envergure. Alors, il y a un petit dimorphisme sexuel, donc c'est la différence entre les mâles et les femelles. Donc le mâle est de couleur assez jaune vif, la femelle